uniquement par des personnels non grévistes.
Inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You better let your fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shoe.
Bonsoir, il est 19h passé de 10 minutes. On est un peu en retard pour ce Canu Info.
Alors, ce soir, on va parler de tout un tas de choses. Et d'abord, on va voir où en est Gilles Bourdoulet.
La relax pour deux syndicats. Caliste de la CGT poursuivi pour un tractage non déclaré.
Ensuite, on ira faire un tour à l'usine Mauroy-Ducrot, le site de Vénissieux qui est en grève.
Les employés de la Citel ont de nouveau manifesté ce matin.
Ensuite, Albert Doutre qui nous fait part de son obsession sur la sécurité.
On va parler de théorie du genre.
Droit à l'avortement.
Et la rubrique Il faut que ça se sache.
Alors, vous vous souvenez peut-être pas de son nom, mais sûrement de sa déclaration. Gilles Bourdoulet, c'est ce maire UDI de la ville de Cholet, dans le Maine-et-Loire, qui avait déclaré à des gens du voyage, je cite, « regretter qu'Hitler n'en ait pas tué assez de gens du voyage ». Alors, suite à ça, il a été viré de l'UDI et condamné à 3000 euros d'amende avec sursis pour apologie de crimes contre l'humanité. Depuis ces quelques jours, on réentend parler de cette histoire avec des phrases comme du harcèlement moral à la chasse à l'homme, les sommets de l'ignominie, meute haineuse, déformation de la vérité, etc., etc. Alors, vous l'aurez peut-être compris, ces propos ne sont pas les réactions qui ont suivi ces déclarations. À l'époque, seulement quelques petits articles pour dire que quand même ça se faisait pas trop de dire ça, mais rien de plus. Non, c'est tout simplement lui qui, dans son journal municipal, écrit une tribune pour dire à quel point les journalistes ont été horribles avec lui et qu'il a très mal vécu la situation.
Pas mal.
Pas mal. Il accuse notamment le journal local, qui est le Courrier de l'Ouest, qui a révélé sa fameuse phrase, de ne pas lui avoir donné de droit de réponse et d'avoir sorti la phrase de son contexte. Alors, nous, on va recontextualiser très vite fait. Pour rappeler, c'était en juillet l'année dernière, en plein moment où Manuel Valls menait une véritable guerre aux bidonvilles installées un peu partout en France, dont certains, comme à Marseille, se sont fait attaquer par des riverains, ou d'autres, comme à Vaulx-en-Velin, où quelques centaines d'habitants ont manifesté pour que le campement soit expulsé le plus vite possible, ou qu'un maire appelant ouvertement au meurtre à propos d'un campement de Roms installé dans son village a déclaré, je cite, « soutenir un de ses citoyens si jamais il commettait l'irréparable à propos du campement de Roms installé juste à côté ». C'est ce contexte-là, une déferlante que Gilles Bourdoulet n'a fait qu'amplifier et rien d'autre.
La relaxe pour deux syndicalistes. Donc, c'est Pierre Coucan, qui est secrétaire général de l'UDCGT du Rhône, et Michel Catelin, qui est membre du bureau de l'ULCGT de Villefranche, qui ont été relaxés par la Cour d'appel de Lyon aujourd'hui. Donc, c'est chouette que la Cour d'appel de Lyon relaxe.
C'est rare.
C'est
attention.
Rare. Mais heureusement, vu les faits. Puisqu'ils étaient poursuivis, rappelez-vous, pour avoir distribué des tracts au péage de Villefranche en 2010. Une opération qui n'avait pas été déclarée aux autorités. Oh là là, parce qu'en fait, c'est des actions qui ne sont jamais déclarées aux autorités. Voilà. What have you made if you gain the whole world but sell your own soul for the price of a pole? The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. Morois du Cros, le site de Vénissieux était en grève. Donc une quinzaine d'agences du transporteur Morois du Cros ont été perturbées par une grève hier, donc mardi. Et c'est le cas sur le site de Vénissieux qui, pourquoi, est voué à disparaître et placé actuellement en redressement judiciaire. Donc les salariés du groupe sont vraiment très très énervés depuis la présentation jeudi dernier en comité d'entreprise de l'offre améliorée d'Arcole Industrie de reprendre moins de la moitié des 5000 salariés. Ils font pas beaucoup d'efforts quand même. Donc sur le site de Vénissieux, seuls 27 des 168 emplois devraient être classés, ce qui est vraiment
très
pas
peu.
Beaucoup. Et voilà, le tribunal de commerce doit étudier tous les dossiers de reprise vendredi. Et également dans le Rhône, et également des questions d'emploi supprimés, c'est les employés de la Citel qui ont de nouveau manifesté aujourd'hui. Donc la Citel, c'est une ex-usine du groupe électroménager Fagor Brandt, et en gros... les salariés construisent des lave-linges. Donc, ils étaient dans la rue ce matin avec comme mot d'ordre maintien de tous les emplois. Donc ça intervient une semaine après leur dernière mobilisation. Il y avait plus de 120 personnes qui ont manifesté entre la préfecture et leur usine du 7e arrondissement. Et avant cela, une délégation a été reçue par le préfet. Et les salariés réclament toujours la fin du chômage partiel de 370 salariés et la sauvegarde des 420 emplois menacés. Donc, pour faire un petit retour en arrière, pour expliquer un peu la situation de l'entreprise. Donc, mercredi dernier, le préfet du Rhône, donc Karenko, avait assuré à l'intersyndicale de l'usine de lave-linge qu'ils avaient bon espoir que le délai soit reporté au-delà du 27 janvier. Et que c'était au tribunal de commerce de décider selon la préfecture et les syndicats. Donc effectivement, la date butoir a été repoussée aujourd'hui en fin d'après-midi pour le dépôt des offres de reprise de la Citel, qui était initialement fixée à lundi et qui a été repoussée au 17 janvier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça laisse du temps. Donc lundi matin, une délégation de l'intersyndicale a été reçue pendant plus d'une heure près des élus du Grand Lyon pour évoquer la situation de Citel. Et qui avait c'est un site qui a été également placé le 2 janvier en redressement judiciaire. Et un comité d'entreprise extraordinaire est toujours prévu demain matin, au cours duquel l'administrateur judiciaire doit présenter les offres de reprise du site. Voilà. Call it urban, call it street, a road by any other name's more just as sweet. Spit so hard, but I'm smart at the bar, come through with a union jet full of yarn.
Alors, Albert Doutre. Alors, Albert Doutre, vous le connaissez certainement, et pour les personnes qui ne voient pas qui c'est le directeur de la sécurité publique du Rhône, autrement dit, le chef des flics du Rhône, qui lance un appel à la délation. Alors, il y a quelques jours, là, les chiffres sur la sécurité sont tombés, ça a fait la une de tous les médias, la délinquance en hausse et surtout une forte augmentation des cambriolages. Bon, alors que les gens se rassurent, a priori pour une immense majorité d'entre eux, c'est des cambriolages qui ont lieu dans des domiciles, mais sans violence, sans rien. Du coup, voilà, c'est juste du vol d'objets. Alors, c'est pas très agréable, mais voilà, c'est pas non plus un drame. Donc voilà, une grosse augmentation des cambriolages. Et d'après ces chiffres, le Rhône n'est pas exclu, et le Rhône est aussi une hausse. Alors Albert Doutre a la solution, enfin surtout une solution qui va pas lui coûter grand chose. Il appelle le voisinage à être vigilant et à ne pas hésiter à appeler la police si on détecte quelque chose de suspect. Alors suspect, ça reste quand même assez large. Autant dire que peut-être que les flics vont être saturés d'appels, et après, au bout d'un moment, vont dire bon stop, appelez-nous plus, on s'occupe de tout.
Surtout qu'ils manifestaient la semaine dernière devant la mairie pour dire qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs.
Ah, les pauvres. Ben là, Albert Doutre a dit que la ville était très très bien quadrillée et qu'il y avait un maillage des patrouilles assez important à Lyon. Mais on ne sait pas s'il l'a fait exprès, mais quand même, en parlant de voisinage vigilant, Albert Doutre fait penser à un système qui porte à peu près le même nom, qui s'appelle Voisin Vigilant, qui met en place un groupe de balance, ça n'a pas d'autre nom, prêt à appeler les flics. Alors, dans certaines villes ou communes, des autocollants sont mis à l'entrée pour prévenir les gens, mais ce n'est ni systématique ni obligatoire. Ça ne veut pas dire que si vous ne voyez pas ces autocollants, ça ne veut pas dire que le système n'a pas été mis en place. Alors j'ai cherché un peu, j'ai découvert qu'il y avait un site internet qui s'appelle voisinvigilant.org. Alors si je vous fais la pub, ce n'est pas pour vous encourager à participer à ce genre d'événement. Mais voilà, j'arrive pas à savoir si c'est un truc qui a été mis en place par des gens ou si c'est un truc d'État. J'ai pas réussi à savoir.
Bah, il y a plusieurs villes qui l'ont mis en place. Il y a un an ou deux.
Ouais.
Et ça avait été mis en place par la ville et assumé par la ville et pas que par des collectifs de citoyens.
C'est ça. Et ben alors, tu c'est tout à fait ça. Tu mets le pied de là où ce que je veux dire. Du coup, c'est un dispositif en tout cas qui permet de voir dans quelle ville, arrondissement et dans quel quartier ou même rue des voisins ont décidé de s'inscrire sur dispositif. On apprend par exemple que pour le 7e arrondissement, une communauté, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, de Balance. Bon, ça Balance, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. C'est créé au 22 rue du Commandant Ayas, AYA2SE. Et au 11 rue Montesquieu. Alors c'est hyper précis. Je sais pas si du coup ils surveillent que leur immeuble ou bon, on imagine quand même assez facilement qu'ils vont regarder. Enfin, alors après ça peut être juste une personne. Hein, au 11 rue Montesquieu, n'allez pas brûler le 11 rue Montesquieu ou le 22 rue Commandant Ayas comme ça. Et c'est peut-être juste une personne. D'autres voisins sont peut-être beaucoup plus sympathiques à l'intérieur de cet immeuble. Voilà. Du coup, on sait pas trop. C'est un peu flou parce que pour accéder à plus d'infos, faut être inscrit. Blablabla. Tout ça, en tout cas, c'est fait en totale ça peut être fait en totale collaboration avec la police. Ça fait rêver. En gros, on s'inscrit sur ce genre de site, ce qui permet de recevoir des autocollants où après il y a un œil comme ça avec marqué voisinvigilant.org. Des prospectus comme ça, quand on monte un collectif dans son immeuble et qu'on est un peu tout seul et quand même on a un peu peur d'aller frapper à la porte de son voisin, on a des flyers comme ça, hop, on met des autocollants sur un autocollant sur sa boîte aux lettres avec l'œil pour dire attention, moi je vais être vigilant. Après des flyers pour distribuer dans les boîtes aux lettres pour dire ah, si vous voulez, vous pouvez vous joindre à moi. Moi j'en fais partie. Voilà. Bon, là où il y a un peu d'espoir, c'est que c'est pas une utilisation massive. Alors en gros là, moi j'ai regardé vite fait, par exemple pour le 7e il y avait ces deux rues, pour le 1er arrondissement par exemple il y avait le 1 place de la Comédie. Enfin je veux dire, c'est tout. Après bien sûr que il y a des balances de partout et qu'il y a pas forcément des balances qui s'inscrivent sur internet, hein. Attention quand même. Mais voilà, et on sait pas trop. Bon, le site revendique -20% de cambriolage contre les gens.
Magique.
C'est magique, mais quand même, on sait pas trop d'où ils tiennent ces chiffres. Après, les endroits où c'est le plus massivement, moi par exemple, où pour m'être baladé et où pour l'avoir déjà vu, c'est plus dans des villes, genre par exemple Charbonnières-les-Bains, où c'est carrément, alors là, je dis ça, mais je suis plus sûr que ce soit vraiment eux, mais ce type de ville un peu genre banlieue pavillonnaire ou ultra friquée et tout, où il y a même un panneau genre en dessous du nom de la ville pour dire voilà, la ville est surveillée par ses voisins. Bon, mais quand on met les pieds dans ce genre de ville, on sait qu'a priori, c'est ça l'ambiance, quoi. Donc voilà, on sait pas si c'est très efficace, c'est pas utilisé de manière hyper massive, mais en tout cas, ce qui est quand même pas mal à savoir, c'est que sur ce site internet, en tout cas, si vous voulez commettre un acte délictueux, eh ben, vous pouvez toujours jeter un œil sur leur site pour voir, eh ben, à l'endroit où vous devez faire votre truc, s'il y a pas des balances déclarées, en tout cas.
Et donc, moi, je vais revenir sur les théories du genre, parce que même si on en parle beaucoup, là, quand même, dans les médias, c'est bien relayé. Et bon, on trouvait ça quand même important de remettre une petite couche dans notre média local. Donc, pour resituer, des organisations d'extrême droite avaient appelé à des, je cite, journées de retrait de l'école pour dénoncer une prétendue introduction de la théorie du genre dans les classes. Donc, je cite, l'éducation sexuelle est prévue en maternelle avec démonstration. Ils vont apprendre aux élèves à se masturber. C'est à la maternelle, hein, je resitue les. Ce sont les enseignants qui décideront si vos enfants seront une fille ou un garçon.
Waouh! T'as quel pouvoir ils ont maintenant, ces profs?
Ouais, t'as vu. Donc, depuis des mois, des organisations proches de l'extrême droite et de la Manif pour tous font courir les plus folles rumeurs sur l'introduction d'une prétendue théorie du genre dans les programmes scolaires. Donc, une propagande qui est assez délirante, qui vise des modules pédagogiques qui ont été testés depuis janvier dans quelques centaines de classes et qui sont destinés justement à lutter contre les stéréotypes sexistes dès la maternelle, mais qui en sont en aucun cas des annonces pour des trucs sexuels un peu fous. Donc la semaine dernière, c'est de nombreux parents de l'Est de la France qui ont reçu par SMS ou email sauvage une invitation à ne pas mettre leur enfant en classe le 24 janvier en signe de protestation. Et figurez-vous que ça a plutôt bien marché et ça a aussi marché la SMS, email et Facebook important. Ouais. Dans certaines écoles, notamment de la banlieue de Mulhouse et de Strasbourg, on a dénombré jusqu'à un tiers d'absents. Ce qui marche quand même plutôt bien. Oui. Assez fort à l'extrême droite. Donc, oui. L'appel national à ces journées remonte au 18 décembre. Donc, il n'est pas tout neuf. Et il est l'œuvre de notamment la romancière et cinéaste Farida Belghoul, qui est une figure historique de la marche pour l'égalité et contre le racisme dans les années 80.
Ce qui était appelé aussi la marche des beurs.
Ouais. Et désormais proche de égalité et réconciliation.
Alain Soral,
voilà. Donc sur le site internet dédié à cette initiative, Farida Belghoul, dans des vidéos à fort relent conspirationniste, dénonce la propagande LGBT, donc LGBT c'est lesbienne, gay, bi, trans, destinée à apprendre l'homosexualité aux élèves ou encore appel à protéger la pudeur et l'intégrité de nos enfants. Et parmi les liens recommandés, on retrouve la Manif pour tous, le Printemps français ou l'Action française. Voilà, c'est beau.
Il y a des alliances qu'on a du mal à saisir quand même. Il faut quand même trouver. C'est avoir participé à la marche des beurs et s'allier avec l'Alliance française et tout. En ce moment, il y a des choses qui m'échappent dans les alliances entre les gens.
Mais surtout, oui, c'est assez compliqué. Et par contre, le truc qui est assez drôle, bon, dans le versant répressif, donc toi, tu parlais de voisins vigilants. Et ben aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, n'a rien trouvé de mieux que de demander aux responsables d'établissement de convoquer les parents qui ont retiré leurs enfants de l'école sur la foi de rumeurs relatives à un prétendu enseignement de la théorie du genre. Donc, ça devient n'importe quoi si les parents sont convoqués. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir une punition, les flics, ils vont les emmener au commissariat, qu'est-ce qui se passe là?
Ouais, et puis ça fait surtout flipper sur l'espèce d'effet boule de neige là. En ce moment, le gouvernement est un peu spécialiste de ça, là, sur comment réagir pour que les gens se rallient à une espèce d'initiative pourrie. Mais...
Et donc oui, effectivement, mettre ça met en place du répressif. Donc merci Vincent Payon. Merci pour cette bonne démonstration de pédagogie. Pédagogie qui marche, celle de l'État, quoi, et de nos chères écoles. Voilà. Et donc oui, pour dire que je pense que c'est assez compliqué parce que je pense que ça ramène aussi, je pense, des fonds racistes à des personnes assez laïques qui vont défendre, en tout cas, c'est des trucs de l'école qui sont en final plutôt bien dans ce truc-là de l'école, mais comme mais voilà, ça peut aussi quand même jouer sur des trucs racistes. Ça va être assez compliqué, je pense, dans les mois à venir, ces liens-là qui sont faits. Voilà, voilà. Mais en tout cas, il y a une cinquantaine d'universitaires de Strasbourg qui, par contre, ont publié une tribune dans l'Alsace, un journal, dans laquelle ils mettent en pièce les arguments fallacieux utilisés par les organisateurs de la journée de retrait de l'école. Heureusement, ils font mieux que Payon, ils sont un peu moins cons. Donc, c'est des enseignants assez nombreux, en fait, et de tous les champs d'études, donc historiens, mathématiciens, ingénieurs, spécialistes en droit, sciences sociales et politiques, qui sont mobilisés. Donc, je vais lire un peu des extraits du truc. Donc, ils affirment, cette rumeur est totalement mensongère. Non, les enfants ne sont pas en danger. Non, il n'y aura pas de projection de films sexuels à l'école et les garçons ne seront pas transformés en filles, et inversement. Non, la prétendue théorie du genre n'existe pas. Et pour en finir avec les hérésies des reçus, donc les signataires soulignent que le genre est simplement un concept pour penser des réalités objectives. On n'est pas homme ou femme de la même manière au Moyen-Âge et aujourd'hui. On n'est pas homme ou femme de la même manière en Afrique, en Asie, dans le monde arabe, en Suède, en France ou en Italie. On n'est pas homme ou femme de la même manière selon qu'on est cadre ou ouvrier. Le genre est un outil que les scientifiques utilisent pour penser et analyser ces différences. Pas mal, plutôt pédagogique, leur truc.
Plutôt pédagogique, plutôt neutre.
Voilà, bon, après, ils font tout un truc autour du blabla, de l'importance de l'école, de l'égalité à l'école, de l'importance de l'école. Bon, bah, en fait, moi, je vous le lis pas là, parce que plutôt, moi, j'étais pas à fond avec eux. Et voilà, et ils finissent de manière un peu pompeuse en parlant que la princesse pourrait sauver le prince, et ça c'est important pour les futurs citoyens de France. Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, pour montrer qu'il y a des personnes qui ont des meilleures initiatives que des ministres. Ah ben, figurez-vous, je continue pour parler d'un autre truc peu enthousiasmant qui est la mobilisation qui continue pour le droit à l'avortement. Donc les féministes espagnoles appellent à une large mobilisation ce samedi 1er février parce que rien n'est jamais acquis, en Espagne comme ailleurs. Donc il faut continuer le combat féministe pour le droit à l'avortement. Donc à Lyon, le rendez-vous, c'est à 14h30. Place des Terreaux, et c'est initié par le collectif Droit IVG Rhône. À Grenoble, il y a un rendez-vous à 14h, place Félix Poulat, à l'initiative de la plateforme Droit des Femmes de l'Isère. Donc, pour préciser, le 20 décembre, le gouvernement Rajoy a annulé la loi autorisant l'avortement. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu plus, donc, en France, qu'est-ce qui se passe autour de cette loi. Il y a eu un dépôt d'amendement de l'UMP le 20 janvier 2014 qui proposait le déremboursement de l'IVG. Autant dire, si c'est déremboursé, ben, ça réaugmente les inégalités entre femmes pauvres et femmes riches qui peuvent se faire avorter. Et plein de manifestations qui instauraient des climats haineux. Donc notamment le 19 janvier à Paris. Voilà, et donc aussi le rejet du rapport Estrella par le Parlement européen en décembre. Je rentre plus dans les détails parce qu'on en avait déjà parlé. Aussi des initiatives de remise en cause du droit à l'avortement en Suisse et en Lituanie et au niveau européen actuellement. Et toujours des dispositions légales extrêmement restrictives des pratiques de fait de l'accès à l'avortement en Pologne, à Malte, en Irlande et en Italie. Voilà. Et j'avais envie, comme on a un peu de temps en plus dans ce journal, de vous lire des extraits, mais quasi la totalité, d'une tribune qui a été faite par Béatrice Preciado, qui est une philosophe, qui s'appelle « Déclarer la grève des utérus ». Donc, enfermés dans la fiction individualiste néolibérale, nous vivons avec la croyance naïve que notre corps nous appartient, qu'il est notre propriété la plus intime, alors que la gestion de la plupart de nos organes est assurée par diverses instances gouvernementales ou économiques. Parmi tous les organes du corps, l'utérus est sans doute celui qui, historiquement, a fait l'objet de l'expropriation politique et économique la plus acharnée. Cavité potentiellement gestatrice, l'utérus n'est pas un organe privé, mais un espace public qui se dispute pouvoir religieux et politique, industrie médicale, pharmaceutique et agroalimentaire. Chaque femme porte en elle un laboratoire de l'État-nation, et c'est de sa gestion que dépend la pureté de l'ethnie nationale. Depuis 40 ans en Occident, le féminisme a mis en marche un processus de décolonisation de l'utérus. L'actualité espagnole montre que ce processus est non seulement incomplet, mais encore fragile et irrévocable. Le texte a suscité l'indignation de la gauche et des féministes, mais aussi l'objection du collectif des psychiatres qui refusent de participer à ce processus de pathologisation et de surveillance des femmes enceintes, annihilant leur droit à décider pour elles-mêmes. C'est bon, tu suis ?
Tout à fait. C'est très clair.
Je continue. Les politiques de l'utérus sont, comme la censure et la restriction de la liberté de manifester, de bons détecteurs des dérives nationalistes et totalitaires. Dans un contexte de crise économique et politique de l'État espagnol, confronté à la réorganisation du territoire et de son anatomie nationale, donc par exemple pensons au processus de cession de la Catalogne, mais aussi au discrédit croissant de la monarchie et à la corruption des élites dirigeantes, donc le gouvernement cherche à récupérer l'utérus comme lieu biopolitique dans lequel fabriquer à nouveau la souveraineté nationale. Il imagine qu'en le possédant, il parviendra à figer les vieilles frontières de l'État-nation en décomposition. Bref, c'est un peu peut-être dur à comprendre. En tout cas, c'est pour dire que l'utérus, du coup, le corps des femmes, est vraiment possédé par l'État. Cette loi est aussi une réponse à la légalisation du mariage homosexuel acquise durant le mandat du précédent gouvernement socialiste et que, malgré les tentatives récurrentes du Parti populaire, le tribunal constitutionnel a refusé d'abroger. Face à la remise en question du modèle de la famille hétérosexuelle, le gouvernement Rajoy, proche des intégristes catholiques de l'Opus Dei et du cardinal Rocco Varela, entend aujourd'hui occuper le corps féminin comme lieu ultime où se joue non seulement la reproduction nationale, mais aussi la définition de l'hégémonie masculine. Si l'histoire biopolitique pouvait être racontée cinématographiquement, donc là c'est plus en images, on comprend mieux. Nous dirons que le PP prépare un frénétique porno gore dans lequel Rajoy et son ministre de la Justice, Ruiz Gallardón, plante le drapeau espagnol dans tous les utérus de l'État-nation. Voici le message envoyé par le gouvernement aux femmes du pays. Ton utérus est un territoire de l'État, domaine fertile pour sa souveraineté nationale catholique. Tu n'existes qu'en tant que mère, écarte les jambes, deviens terre d'insémination, reproduis l'Espagne. Si la loi que le PPP, pardon, juste PP, propose, prend effet, les Espagnols se réveilleront avec le Conseil des ministres et la conférence épiscopale au fond de l'endomètre. Cornée avec utérus, je ferme les jambes devant le national-catholicisme. Je dis à Rajoy et Varela qu'ils ne mettront pas un pied dans mon utérus. Je n'ai jamais enfanté, ni n'enfanterai jamais, au service de la politique espagnoliste. Depuis cette modeste tribune, j'invite tous les corps à faire la grève de l'utérus. Affirmons-nous en tant que citoyens entiers et non plus comme utérus reproductif. Par l'abstinence et par l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme, la coprophagie, la zoophilie, trois petits points, et l'avortement. Ne l'on sent pas pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national catholique. N'enfantons pas pour le compte du PP, ni pour les paroisses de la conférence épiscopale. Faisons cette greffe comme nous ferions le plus matriotique des gestes. Une façon de déconstruire la nation et d'agir pour la réinvention d'une communauté de vie post-État national où l'expropriation des utérus ne sera plus envisageable. Voilà. Un beau texte de Béatrice Preciado.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Eh ben, on va faire un point sur les centres de rétention en Italie. On en parle souvent dans cette chronique, mais c'est parce qu'il s'y passe toujours un tas de choses. Alors, après plusieurs incendies volontaires, le CIE de Turin est détruit aux trois quarts et à moitié vide. Devant l'ampleur des dégâts causés par les luttes des retenus, les responsables à l'immigration en Italie ont décidé d'évacuer le centre. En gros, le CIE de Turin ferme.
Bravo.
Bravo. Là, j'ai pas le décompte, mais ça fait déjà. C'est pas le premier qui ferme. Le nombre de places de rétention en Italie commence à baisser sérieusement, ce qui freine considérablement la machine à expulser.
Faudrait faire le compte, hein, depuis 2011, le nombre de centres là qui ont été fermés.
Ouais, il y en a pas mal, mais en tout cas, il me semble de mémoire, en tout cas, il y a plus de la moitié des places qui ont été détruites par les retenus eux-mêmes. C'est quand même vraiment la classe. Du coup, des retenus là ont déjà commencé à être transférés au CIE de Rome et de Bari. En complément de ça, il y a une vidéo qui a été tournée par des retenus de Turin pendant qu'ils sont encore là, qui est disponible sur le site sans papiers ni frontières, le tout ça au pluriel, .noblog.org. Vous allez sur Google, vous tapez sans papier ni frontières au pluriel et vous tomberez sur le blog. C'est un super blog, on en fait la pub parce que c'est quand même souvent de là qu'on tire nos principales infos. Voilà, si vous ratez la chronique, allez y jeter un coup d'œil et vous serez informé sur tout ce qui se passe autour des centres de rétention et des frontières dans le monde entier. Voilà, en tout cas, il y a une vidéo qui montre l'état du centre de rétention après les incendies et qui montre aussi les conditions actuelles de vie à l'intérieur du centre, c'est-à-dire que les gens n'ont plus de mobilier, ils dorment par terre, enfin, bref, le centre est à moitié cramé, du coup il y a de la suie partout, c'est assez dégueulasse. Il y a un retenu du CIE qui a réussi à raconter à une radio italienne que les flics ont perquisitionné les chambres pour trouver qui était à l'origine de la vidéo, parce que ça a fait pas mal de bruit en Italie et les flics sont un peu vénères qu'une vidéo soit sortie, sachant que, comme en France, les téléphones portables avec caméra sont interdits et confisqués à l'arrivée du centre de rétention. Ça, c'était pour Turin, et voilà, bon, après, vite fait pour Rome, il y a une grève de la faim qui a été lancée et suivie par une vingtaine de personnes au CIE de Rome.
Ben, quelques infos de Calais, parce que Calais, ben, c'est le lieu pour partir en Angleterre, donc c'est toujours un lieu de forte tension. Donc le 24 janvier, il y a eu une expulsion, donc c'est un groupe d'une douzaine de Syriens et d'Égyptiens qui ont été expulsés au milieu de cette journée. Donc c'était un petit campement qui était un résultat de la campagne d'expulsion de l'automne, qui avait débuté le 5 septembre par l'évacuation du squat de la rue Mouron, et où habitait, qui était habité par des exilés de Syrie et d'Afrique de l'Est. Et après des expulsions en Syrie, donc il y avait un petit groupe d'exilés qui avait trouvé à s'abriter ici. Donc c'était pas un lieu fermé, c'était sous une halle ouverte d'une usine abandonnée, derrière le chantier d'un supermarché. Il n'embêtait personne, ni les propriétaires, ni les ouvriers du chantier, ni les vigiles, et plutôt personne ne les embêtait, ben, jusqu'à ce que le supermarché finisse son chantier, et qu'il considère que ben, il pourrait peut-être aller emmerder les gens, voler ou je sais pas quoi. Et suite à la mise en place d'une clôture, le 24 janvier, ben, sans aucune décision d'expulsion qui leur a été signifiée, la PAF est venue les chasser. Et le 27 janvier, une partie du petit groupe de ces personnes, qui avaient été expulsées le vendredi, s'était installée dans le campement près du port, en face du lieu de distribution des repas, avec la centaine de personnes déjà là, et du coup, des personnes syriennes, pakistanaises, afghanes, irakiennes, égyptiennes, kurdes, etc., etc. Voilà les petites nouvelles.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Et une météo ?
Ouais, on va se faire une petite météo et on finira ce Canu Info par un agenda. Alors, vous l'avez constaté, le froid est là. Demain, jeudi 30 janvier, le matin commencera par un ciel très nuageux. On aura des températures qui descendront jusqu'à 2 degrés. L'après-midi, le soleil fera son apparition, mais la pluie avec également. On oscillera entre 4 et 6 degrés. Dans la soirée, le soleil disparaît, mais ça c'est plutôt normal. Mais par contre, les pluies vont rester et on aura des températures qui iront de 4 degrés à 2 degrés. La nuit sera fraîche puisque nous aurons une nuit à 0 degrés. Vendredi, la pluie se fait chasser par le soleil, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Le matin, on commencera avec un 0 degrés, mais les températures monteront jusqu'à 6 degrés l'après-midi avec de belles éclaircies. Et pour finir, une fin d'après-midi plutôt ensoleillée, mais des températures en baisse avec 3 degrés et des températures qui se maintiendront pendant la nuit. Samedi, désolé pour les personnes qui travaillent et qui seront en week-end. Samedi matin, on aura des températures qui iront de 3 degrés à 7 degrés pour la fin de matinée. La pluie sera présente pendant toute la journée. L'après-midi, on aura entre 7 et 5 degrés. Pendant la soirée, des averses feront plus présentes. Un vent de 11 km/h venu du sud viendra nous geler les fesses et on aura des températures qui tomberont à 4 degrés. Et voilà, et on va finir avec dimanche sur un indice de confiance de 4 sur 5. On aura un soleil qui fera là par alternance, de rares averses, un vent du nord, des températures qui iront le matin à de 4 degrés et l'après-midi on aura 7 degrés. Voilà, faut pas espérer plus pour ce week-end.
Bon, en gros, tu nous annonces une fin janvier vraiment pourrie.
Ouais, non, pas terrible la fin janvier. Pas terrible. Get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, the tunes ain't appealing. I'm capulet, you're money, you ain't feeling.
Et on va finir par un agenda un peu bien chargé, l'agenda. Et on n'a qu'à commencer par s'écouter un petit jingle.
Les associations Ahlan, Marlich et le collectif Pushka présentent le festival Révolution R sur les révoltes et les cultures urbaines arabes. Du 25 janvier au 11 février 2014. Projections, concerts, expo photo, table ronde, atelier calligraphie. 18 jours d'événements pour faire de Lyon une caisse de résonance aux changements en cours dans le monde arabe. Seront présents pour la première fois à Lyon Hin Medeb, DJ Figo, Boycott, DJ Sotosura, Dib, Clay BBG et Phoenix. Retrouvez toutes les infos et la programmation sur nos sites internet révolutionr.com ou sur notre page Facebook Révolution R.
بيعلموك النشيد نار شديد بس كله نسبي.
Et donc, par rapport à ce festival, donc demain, il y aura une table ronde qui aura lieu à l'IEP sur le thème art urbain en contexte révolutionnaire, contestation et répression, avec comme intervenantes, outre Inmedeb et DJ Figo, Rami Hassoun, chorégraphe, réalisateur et danseur syrien, Yves Gonzalez Kirano, chercheur au Grémo et auteur du blog Culture et Politique Arabe, et Anna Roussillon, professeure d'arabe à l'IEP de Lyon. Donc c'est à partir de 17h30 jusqu'à 20h à l'IEP, qui est c'est Cours Berthelot, Lurcette.
C'est ça.
Sinon, dans le même festival, il va y avoir un grand concert samedi 1er février. Voilà, j'ai retrouvé l'info. Donc ça sera à partir de 21h et jusqu'à 5h du matin. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de trucs. Donc venu tout droit du Moyen-Orient dans le cadre du festival Révolution R, DJ Sotusura, Boycott, Amoro Rabi, les Refugees of Rap et une spéciale guest en direct de Genève qui accepte de jouer le jeu. Et voilà, et donc pour avoir l'adresse du lieu, il faut regarder sur le programme ou sur Rebellion, il y a l'adresse internet pour trouver le nom du lieu.
C'est-à-dire une adresse mail, il faut envoyer un mail à cette adresse. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu sur le programme, moi, mais par contre, oui, sur rebellion.info, on parle de cet événement et il y a l'adresse mail complète où il suffit d'envoyer un mail. Dire, voilà, on est des gens sympathiques, envoyez-nous l'adresse.
Donc, ça, c'est samedi soir, 1er février. Je reviens un petit peu avant, donc le vendredi 31 janvier, à partir de 19h, c'est au Lavoir Public. Et ben, c'est la deuxième boum d'anniversaire du blog Superféministe. Donc voilà, ça sera au Lavoir Public, qui est 4 place Flessel Lyon 1er. Donc c'est une soirée ouverte à toutes et à tous. Il y a 2 euros d'adhésion pour l'assaut du Lavoir. Et puis après, c'est une soirée prix libre pour le blog. Samedi après-midi, je répète le rassemblement pour les droits à l'avortement, qui sera à 14h30 place des Terreaux.
Très important.
Mm-hmm. Et il y a un festival intersquat qui s'appelle Alès Vez. Donc c'est du 29 janvier au 2 février. Voilà. Pour retrouver le programme, c'est sur rebellion.info qu'il est en entier. Donc ce festival, c'est pour nous l'occasion d'ouvrir nos lieux de vie à tous, pour échanger et partager sur nos modes de vie, nos idées et nos envies. Donc ça, c'est des squatteurs qui parlent. Ateliers, concerts, tables rondes, repas partagés ou simples balades. Venez créer ensemble l'alternative ou simplement célébrer avec nous. Donc ça, c'est le petit appel des gens qui créent ce festival qui s'appelle Alès Vez. Sinon, également ce week-end, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'était l'écran Total 2, week-end de réflexion critique sur la gestion et l'informatique. Donc un week-end de réflexion critique sur la transformation des métiers et des modes de vie par l'informatique et les méthodes de gestion. Donc du 31 janvier au 2 février, ça se passera à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu. Donc ça, c'est aussi dans le 7e arrondissement. Si vous voulez avoir le programme plus détaillé, que ça vous intéresse, que vous voulez rentrer en contact avec les gens, encore une fois, rebellion.info. Et deux autres petits trucs pour finir. Donc une exposition, donc c'est dans le cadre de la ville. Donc du 28 janvier au 15 mars, vous avez le temps. Ne vous y précipitez pas ce week-end. Il y a une exposition des Guerilla Girls qui se tient à la Mlis à Villeurbanne, qui est la grosse bibliothèque, et c'est 247 cours Émile Zola, métro Flaché. Et tout à l'heure, une personne m'a appelé, donc je vais relayer cette info. Donc l'asso pro de cycle organise des démonstrations ce samedi 1er février pour la création d'un club cyclo-urbain du Rhône. Ça se passera de 10h30 à 13h30 au 84 avenue Maréchal de Saxe à Electro Avenue. Voilà pour l'agenda.
Et ben on a fini. Comme vous l'aurez remarqué, un week-end certes pluvieux, mais chargé en activités. On vous a trouvé plein d'activités au sec et à l'abri, ce qui vous permettra de vous rendre à la manifestation pour soutenir, enfin pour l'avortement et pour soutenir les gens qui luttent en Espagne contre ce projet de loi horrible. Il est 8h-10, on a fini ce Canu Info. On n'est pas sûr qu'il y ait d'air noir derrière nous parce que la radio est vide en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. On était que deux ce soir. A priori, c'est. Bon, peut-être qu'ils sont en retard. Hein. Du coup.
Rebranchez votre radio à 8h.
C'est ça. Jamais. Et en attendant, on va vous laisser avec les bandes continues. Merci de nous avoir écoutés.